Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Une grande partie de nos activités quotidiennes consiste à parler et à communiquer avec les autres.
Mais que dit la Bible au sujet de la communication et de l'usage de la langue?
Nous le découvrons à travers cette série de discussions. Yann est en compagnie de notre invité Étienne et je leur cède tout de suite la parole.
Bonjour Étienne et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur le thème que j'ai évoqué la dernière fois, celui de la correction, des reproches et des réprimandes bien fondées. Nous pouvons nous poser la question, comment réagir face aux critiques positives ou comment corriger une personne lorsque nous le pensons nécessaire?
La dernière fois, vous avez déclaré que les critiques peuvent profondément blesser. Et vous les avez comparées aux épées tranchantes qui pénètrent le corps.
Oui, et pourtant, la Bible affirme qu'il peut être nécessaire d'écouter les critiques et que la correction peut être bonne. Écoutons quelques versets tirés des livres bibliques qui parlent de la sagesse de Dieu, tels que les Proverbes et l'Ecclésiaste. Cédons la parole à Sandra.
Celui qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte, mais celui qui accepte les critiques sera honoré. Celui qui aime la connaissance désire être corrigé, mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Écoute les conseils et accepte les critiques, et finalement tu deviendras sage. Mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage que les flatteries des insensés.
Merci Sandra. Oui, ces versets nous encouragent à écouter les critiques et à accepter d'être corrigés, car c'est ainsi que la sagesse grandira dans nos cœurs et que nous deviendrons des personnes plus matures. Mais alors, comment concilier cet enseignement avec le fait que les critiques et les reproches peuvent blesser?
Voilà une question de première importance. Tout va dépendre de la personne qui apporte son avis critique, de ses motivations et de la manière dont elle le fait. Malheureusement, beaucoup de reproches sont faits sous le coup de la colère, de la frustration ou de l'irritation. Les paroles alors prononcées peuvent devenir excessives et dévalorisantes, car elles trahissent des sentiments méchants. Dans un tel contexte, les reproches sont mal vécus. Ils blesseront et mettront une amitié en danger. Certaines critiques sont aussi faites avec l'intention de faire du mal. Elles peuvent être le résultat d'un acte de vengeance, pour nuire à la réputation d'une personne, la manipuler ou l'intimider. D'autres critiques sont faites parce que l'on se sent inférieur, que l'on veut prouver sa supériorité ou renforcer son estime de soi. De telles motivations ne sont pas bonnes. Et une fois de plus, les reproches qui en découlent blesseront et risquent de dégénérer en insultes.
Mais si la Bible affirme qu'il est parfois juste de corriger et de reprendre, comment alors le faire sans blesser?
Pour vous répondre, écoutons ce que l'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. Parfois, il est nécessaire de dire des choses difficiles, mais pourtant vraies. Alors, corriger son prochain avec amour est essentiel. Le verset lu nous le rappelle. Nos paroles doivent motiver notre prochain à grandir et à ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Si nous devons reprendre un ami, un frère ou une sœur, nous devons garder cet objectif en vue. Nos paroles doivent aider et guérir. En aucune manière, elles ne doivent détruire. Voilà pourquoi le verset cité nous rappelle l'importance de l'amour. L'amour doit nous motiver. Le bien-être de la personne concernée doit nous embraser. Notre amour pour elle doit se voir dans notre façon de lui parler et la corriger. Si nous ne maîtrisons pas nos sentiments et ne parvenons pas à parler avec amour, douceur et patience à notre prochain, alors abstenons-nous de le reprendre et de le corriger.
Mais si nous parlons avec vérité et amour, il n'est pas garanti pour autant que nos paroles soient bien accueillies.
Non, vous avez raison, Yann. Il est de notre responsabilité de dire la vérité avec amour, mais nous ne pouvons pas maîtriser les réactions des autres. L'orgueil humain est tel qu'il peut être difficile d'écouter des critiques constructives, même si elles sont vraies et visent notre bien. Nous pouvons alors nous demander quelles sont mes réactions lorsqu'un proche qui m'aime cherche à me reprendre. Est-ce une occasion pour écouter et grandir? Ou est-ce que je réponds irrité et agacé?
Je pense que la plupart d'entre nous n'apprécions pas trop ce genre d'approche. Comme vous le dites, nous sommes orgueilleux et nous n'aimons pas nous remettre en question. Mais les proverbes lus tout à l'heure nous exhortent à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour écouter les critiques constructives.
C'est exact, Yann. Sur le moment, les critiques peuvent susciter de vives émotions, particulièrement si elles proviennent d'une personne hargneuse. Toutefois, une personne sage ne rejette pas d'emblée une critique. Non, il convient de bien réfléchir et de se demander, y a-t-il du vrai dans ce que cette personne dit? Y a-t-il quelque chose que je peux apprendre pour ressembler davantage à Jésus? Certains reproches qui nous sont destinés n'ont rien de bien fondé. Les gens peuvent se tromper, il peut y avoir des malentendus, d'autres aiment simplement dire des méchancetés. Toutefois, il peut y avoir du vrai dans ce que certaines personnes nous disent. Alors, avec sagesse, discernons le vrai du faux. Ayons une attitude humble pour écouter et accepter ce qui est juste. Et aspirons avec l'aide de l'Esprit à remédier à la situation.
Merci Étienne d'avoir abordé ce thème délicat. Comment voulez-vous conclure à présent?
Avec le rappel que Dieu lui-même nous corrige, car il nous aime. Il nous aime d'un amour fidèle, constant, infini, et il veut notre bien. Donnons la parole à Sandra, qui va nous lire dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 5 à 11.
Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est un fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix.
Il n'est pas agréable, en lisant la parole de Dieu ou en écoutant les conseils de nos frères et sœurs en Christ, de se sentir corrigé et repris. Toutefois, si nous répondons positivement à la remontrance, alors nous marcherons vers une vie juste et sainte, vers la sagesse et vers la ressemblance à Jésus-Christ.
Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique. Nous nous pencherons sur la première épître de Jean. Sandra va nous lire au chapitre 2, les versets 3 à 5. Ensuite, elle cédera la parole à Claude, qui nous fera part de ses réflexions.
Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui.
Comment être certain de connaître Jésus-Christ? Comment avoir l'assurance d'être des chrétiens authentiques? L'apôtre Jean, à travers sa lettre, s'est adressé aux croyants troublés à cause de prédicateurs qui leur annonçaient de nouvelles doctrines. Alors Jean a voulu rassurer ses croyants inquiets. Il les a encouragés à rester fidèles au fondement que lui, l'apôtre de Jésus, avait établi. Il leur proposa aussi un petit test pour discerner si oui ou non ils étaient véritablement des chrétiens authentiques. De quoi s'agit-il? À examiner et à considérer si l'on obéit aux paroles et aux commandements de Jésus-Christ. Si tel est le cas, alors nous le connaissons et nous l'aimons. Malheureusement, ces faux enseignants déclaraient que seuls ce qui importait était de rechercher les connaissances mystérieuses et secrètes. Selon eux, on pouvait faire n'importe quoi, vivre dans l'immoralité, la débauche et l'ivrognerie, si l'on consacrait son esprit à la recherche de cette connaissance secrète. Toutefois, Jean s'oppose à un tel enseignement. Il nous appelle à nourrir notre foi auprès du Seigneur Jésus et à le suivre. Jésus nous a donné ses commandements et sa vie en exemple car il veut changer nos cœurs. Si ses paroles pour nous sont plus précieuses que l'or pur, alors nous l'aimons et nous sommes ses disciples. Toutefois, si nous ne prenons pas ces mises en garde au sérieux, comment oserions-nous prétendre le connaître et l'aimer? Nous nous contredisons et rejetons sa sagesse et ses commandements. Jean utilise le mot parfait. Les commandements de Jésus sont vrais et justes, mais sommes-nous à la hauteur? Il semble impossible de les mettre en pratique à 100%. Ne rencontrons-nous pas échec après échec? Rassurez-vous, l'apôtre Jean, dans cette même lettre, reconnaît que le véritable croyant peut malheureusement tomber dans le péché et qu'un parcours spirituel sans faute n'existe pas. Ce que nous devons examiner, ce sont nos désirs, nos motivations les plus profondes, nos choix. Imaginez que votre père vous demande de prendre votre mobylette pour apporter un colis d'une certaine valeur à un autre membre de la famille qui vit dans un village fort éloigné. Sur le chemin, vous pourrez parfois vous égarer, tomber en panne, ou encore être distrait, ou rencontrer nombre d'obstacles et de dangers. Toutefois, vous persévérerez et vous garderez toujours le même cap, car vous voulez obéir à votre père. Toutefois, si vous partez dans la direction opposée pour livrer le colis à l'ennemi de votre père, là, vous montrez votre désobéissance. De toute évidence, les intérêts de votre père ne vous sont pas à cœur, et vous n'êtes pas non plus digne de porter son nom. Le vrai chrétien, quant à lui, aspire à obéir à son père, même s'il n'y parvient pas toujours. Il reconnaît que les paroles de Jésus sont paroles de vie, et il a soif de les mettre en pratique, même si ses progrès paraissent parfois longs. Par contre, toute personne qui ne prend pas au sérieux les paroles de Jésus et ne fait pas d'efforts pour lui obéir, ne fait pas partie de la famille de Dieu. De telles personnes ont peut-être une connaissance intellectuelle de la foi, mais cette connaissance n'a pas transformé leur cœur. De ce fait, elles ne sont pas des chrétiens authentiques.
Merci Claude pour cet enseignement important. Le moment est venu de dire au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.